Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 25 avril 2024. Début aujourd'hui des pourparlers entre les États-Unis et le Niger sur le retrait des troupes américaines. Human Rights Watch accuse des soldats burkinabés d'avoir tué au moins 223 villageois, dont 56 enfants, lors de deux attaques menées le 25 février. Au Togo, l'opposition saisit la CEDEAO pour réclamer le retrait de la nouvelle constitution. Ici aux États-Unis, les manifestations se multiplient sur les campus universitaires en soutien à Gaza.
Il s'agit d'une nouvelle politique qui interdit les manifestations à l'intérieur des bâtiments, alors que l'American University a une longue tradition de manifestations.
Reportage à suivre dans la partie magazine. En visite en Chine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé aujourd'hui Pékin à assurer des règles de jeu équitables pour les entreprises américaines. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Le retrait des militaires américains déployés au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme se précise. Selon le département d'État, une rencontre est prévue ce jeudi entre les deux parties à Niamey. Les précisions de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Pas de confirmation pour l'instant des deux côtés du devis de ces discussions annoncées pour ce jeudi. Il était pourtant souligné, côté américain notamment, que celles-ci doivent avoir lieu dans la transparence. La partie américaine devait être composée de la diplomate en poste à Niamey et du directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Aucun officiel nigérien n'a commenté cette annonce sur la rencontre prévue aujourd'hui, une rencontre qui doit porter sur les modalités du retrait des plus de 1000 soldats américains déployés au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il est annoncé que la rencontre de ce jeudi sera suivi par des réunions entre la partie nigérienne et de hauts responsables militaires américains. Pour Washington, qui a accepté la semaine dernière le retrait de ses militaires souhaité par la junte nigérienne le mois dernier, l'opération se fera de manière ordonnée et responsable. Aussi, le gouvernement américain se dit ouvert à maintenir une forte relation bilatérale avec le Niger. Les États-Unis assurent qu'il reste attaché à une relation solide avec le Niger. Dans les mois à venir, le secrétaire d'État adjoint Kurt Campbell viendra à Niamey pour discuter de la collaboration continue dans des domaines d'intérêt commun. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
6 soldats ont été tués la semaine dernière dans l'ouest du Niger lors d'une attaque menée par des terroristes lourdement armés, a indiqué ce jeudi l'armée. L'assaut mené le 20 avril a visé une position de l'opération antiterroriste Al-Mahaou à Toudoun Dimissa dans la région de Tillabéri, selon le bulletin de l'armée nigérienne. Dans leur fuite, plusieurs terroristes ont été tués en déclenchant eux-mêmes une bombe artisanale qu'ils avaient placée pour piéger les militaires. Human Rights Watch accuse les forces armées du Burkina Faso, aux prises avec les groupes armés djihadistes, d'avoir exécuté au moins 223 civils, dont au moins 56 enfants, lors de deux attaques dans le nord du pays, dans un rapport publié ce jeudi. Le point avec Delidico.
Les soldats ont tué 44 personnes, dont 20 enfants, dans le village de Nondin, et 179 personnes, dont 36 enfants, dans le village voisin de Soro, situé dans le district de Tiou, au nord, selon Human Rights Watch. Les autorités burkinabées n'ont pas réagi à ce rapport pour l'instant. Human Rights Watch dit avoir interrogé 23 personnes par téléphone, dont 14 témoins des tueries, et vérifié des vidéos et des photographies partagées par des survivants. Ces massacres de masse, parmi les pires abus de l'armée au Burkina Faso depuis 2015, semblent faire partie d'une campagne militaire généralisée contre des civils accusés de collaborer avec des groupes armés islamistes et pourraient constituer des crimes contre l'humanité, estime l'ONG Human Rights Watch. Le régime du capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2022, a adopté une stratégie très offensive contre les groupes djihadistes qui contrôlent de vastes pans du territoire burkinabé au prix de nombreuses pertes civiles, selon des ONG et défenseurs des droits de l'homme.
Au Nigeria, près de 120 détenus se sont échappés d'une prison après qu'une pluie torrentielle a détruit la clôture de l'établissement, ont annoncé les autorités. Les fortes pluies qui se sont abattues pendant des heures mercredi ont dévasté le centre de détention de la ville de Souledja, près de la capitale Abuja, détruisant des bâtiments et la clôture de protection. 13 partis politiques et organisations de la société civile au Togo ont déposé un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO pour réclamer le retrait de la nouvelle constitution du pays alors que des élections législatives et régionales sont prévues le 29 avril. Alexandrine Ollognon nous en dit plus.
La CEDEAO a confirmé avoir reçu cette demande de saisine déposée le 18 avril. Parmi les requérants figurent plusieurs partis politiques. Il demande à la Cour de justice de l'institution régionale de condamner la République du Togo pour avoir changé de constitution et de retirer purement et simplement la loi sur le changement constitutionnel. Les requérants estiment que la réforme constitutionnelle a été faite en l'absence d'un débat public préalable et d'un consensus politique, ce qui porte atteinte à la démocratie et la bonne gouvernance. La nouvelle constitution a été adoptée par les députés le 25 mars en première lecture et confirmée en seconde lecture le 19 avril. L'opposition craint que le nouveau texte permette la prolongation à la tête du pays du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Au terme de la nouvelle constitution qui fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, le président sera élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois par les députés et non plus par le peuple.
La saison des pluies aggravée par le phénomène climatique El Niño a des conséquences meurtrières en Afrique de l'Est. La Tanzanie a annoncé aujourd'hui que 155 personnes avaient péri dans diverses catastrophes et au Kenya voisin, des inondations ont fait 13 morts. Au Burundi, les autorités ont fait état la semaine dernière de 96 000 déplacés internes en raison des pluies quasi incessantes depuis plusieurs mois. En Somalie, au moins 4 personnes ont été tuées depuis le 19 avril après des crues soudaines, selon OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil présidentiel de transition en Haïti, né de longues et difficiles tractations, a prêté serment aujourd'hui après la démission officielle du Premier ministre Ariel Henry et doit maintenant s'atteler à la lourde tâche de gouverner un pays en proie à la violence des gangs. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, Michel Patrick Boisvert a été nommé Premier ministre intérimaire. Les États-Unis ont salué l'installation du Conseil présidentiel de transition en Haïti, qualifiant cette étape de cruciale pour l'organisation d'élections dans ce pays plongé dans une profonde crise politique et sécuritaire. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé la Chine et les États-Unis à gérer leurs différends de manière responsable à l'occasion de sa visite en Chine. Arrivé hier à Shanghai, il est aujourd'hui à Pékin pour s'entretenir avec de hauts responsables chinois. Nathalie Barge.
Antony Blinken a rencontré à Shanghai le chef local du Parti communiste chinois. Il a souligné la nécessité d'un engagement direct de se parler, d'exposer les différends qui sont réels et de chercher à les surmonter. Le secrétaire du comité du PCC de Shanghai, Cheng Jining, a pour sa part souligné l'importance des entreprises américaines dans l'économie locale. Que nous choisissions la coopération ou la confrontation, cela affecte le bien-être des deux peuples, des deux pays et l'avenir de l'humanité, a-t-il déclaré. M. Blinken a rencontré des étudiants à l'université de New York à Shanghai, disant souhaiter davantage d'échanges universitaires entre la Chine et les États-Unis, et il s'est entretenu avec des chefs d'entreprise américains. Le chef de la diplomatie américaine est à Pékin aujourd'hui, à peine 2 jours après l'adoption au Congrès d'une assistance de 95 milliards de dollars à destination d'alliés de Washington, dont Taïwan. Le texte exige par ailleurs que l'application TikTok soit cédée par sa société mère chinoise ByteDance, sous peine d'être exclue du marché américain. La précédente visite en Chine d'Antony Blinken en juin avait été suivie d'une rencontre en novembre entre Joe Biden et Xi Jinping à San Francisco qui avait débouché sur une reprise des contacts militaires et une coopération dans la lutte contre la fabrication du fentanyl. Le mois dernier, la Chine a invité Washington à respecter les règles de l'économie de marché et fait savoir qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour préserver ses droits et intérêts légitimes.
Ici aux États-Unis, Donald Trump est de retour ce jeudi à son procès pénal à New York, confronté au témoignage haut en couleur d'un ancien patron de tabloïd qui s'était mis à son service en 2016 pour tuer des articles sur de possibles scandales, dont une liaison avec une mannequin de Playboy. Le milliardaire républicain de 77 ans est le premier ancien président des États-Unis à comparaître au pénal, 7 mois avant son duel quasi certain avec le président démocrate Joe Biden, âgé de 81 ans. L'armée israélienne a intensifié ses frappes aériennes sur Rafah dans la nuit de mercredi à jeudi, tuant au moins 6 Palestiniens, prélude probable à l'évacuation de la ville civile, de la population civile du moins, et à un assaut terrestre contre cette ville du sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne se dit prête à mener une opération terrestre de grande ampleur contre le Hamas à Rafah, zone frontalière de l'Égypte, qui abrite environ 1 million de civils palestiniens. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. Présent à la Minute Éco avec Mouamadou Mfa.
L'Algérie a annoncé mercredi la signature d'un accord cadre avec le géant de l'agroalimentaire Qatari Baladna pour la réalisation d'un projet de production de lait en poudre. Le projet, d'une valeur de plus de 3,5 milliards de dollars, sera réalisé sur une superficie de 117 000 hectares dans le sud de l'Algérie et devrait permettre la création de 5 000 emplois directs. Le président azerbaïdjanais de la COP29 veut que le déblocage des financements requis contre le réchauffement de la planète soit un pilier des négociations climatiques annuelles de l'ONU en novembre prochain. Il l'a dit jeudi à Berlin lors d'un rendez-vous diplomatique clé sur les négociations, évalué à 2 400 milliards de dollars par an d'ici 2030. L'aide des pays développés au reste du monde restera, quoi qu'il arrive, très en deçà des besoins pour les pays en développement hors Chine, selon un calcul d'experts de l'ONU. Le transport aérien était très perturbé jeudi en France en raison d'une grève d'une partie des aiguilleurs du ciel. Près de 2600 vols au départ ou à l'arrivée des aéroports français étaient prévus pour la journée contre près de 5200 la veille, selon le tableau de bord de la Direction générale de l'aviation civile. Les compagnies aériennes ont souligné que leurs clients avaient la possibilité de changer de vol gratuitement ou d'être remboursés.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Basketball Africa League, City Oilers de l'Ouganda arrache sa première victoire dans la conférence du Nil.
Oui, après 3 défaites en 3 matchs, les Ougandais se devaient de réagir et ils l'ont fait dans un match à suspense face au champion en titre à la Ligue d'Égypte au complexe sportif Hassan Mustapha du Caire. City Oilers l'a emporté dans les dernières secondes 82 à 81. Sa première victoire en 4 rencontres. Alali conserve tout de même la tête de cette conférence du Nil grâce à ses 3 victoires précédentes. De son côté, Bangui Sporting Club a réussi son opération revanche et relance face à Alali de la Libye. Les Centrafricains se sont imposés 96 à 93, décrochant leur 2e victoire en 4 matchs. Pas de match aujourd'hui, pour rappel, les 2 premiers de chaque poule et les 2 meilleurs 3e de l'ensemble des 3 conférences réunies se qualifient directement pour les play-offs prévus à Kigali au Rwanda du 24 mai au 1er juin prochain.
NBA, les play-offs se poursuivent, le Heat égalise face aux Celtics.
Des 3 points en avalanche ont permis au Miami Heat d'assommer les Celtics 111 à 101 pour égaliser à 1 partout dans leur série. Sur le parquet de Boston, meilleure équipe de la saison régulière, Tyler Hero a bien porté son nom en inscrivant 24 points et en délivrant 14 passes décisives. À l'ouest, Oklahoma City, tête de série numéro 1, a fait parler la foudre contre la Nouvelle-Orléans, écrasé 124 à 92 pour mener 2 à 0 dans la série. Comme lors du premier match, Shai Gilgeous-Alexander a été l'homme du soir avec 33 points.
La CAF a tranché dans l'affaire qui oppose la RS Berkane à l'USMA.
L'USM Alger perd son match aller face à la Renaissance sportive de Berkane sur tapis vert 3 à 0 et le match retour au Maroc est maintenu en demi-finale de la Coupe de la Confédération. C'est la décision rendue par la commission des litiges de la CAF. La rencontre qui devait opposer dimanche dernier le club algérien à son homologue marocain n'a pas eu lieu. Les autorités algériennes ont refusé d'autoriser le maillot habituel de Berkane avec une carte du Maroc incluant le Sahara occidental. Ce maillot avait été confisqué par les douanes algériennes à l'aéroport d'Alger. Les Algériens avaient alors proposé aux Marocains un maillot avec leur drapeau national en lieu et place de leur carte, ce qu'ont refusé les Berkanis. En dépit de deux décisions de la CAF en faveur des Marocains, les autorités algériennes ne se sont pas pliées.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. 30 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, les Rwandais se tournent vers la réconciliation, alors que certains condamnés pour génocide ont déjà commencé à regagner leur famille après avoir purgé leur peine. Comment se présente la cohabitation entre rescapés et familles des coupables ? De Kigali, Jean Damascène Manishimwe nous en dit plus.
Le service correctionnel du Rwanda indique que sur une population carcérale totale de plus de 80 000, plus de 18 000, soit 21%, sont détenus pour génocide. 30 ans après, des milliers de femmes et d'hommes condamnés sont déjà sortis de prison. D'autres en attente sont sur le point d'être libérés après avoir purgé leur peine. Pour les rescapés en particulier, la cohabitation avec les anciens prisonniers a été en dur comprimé à avaler.
Cet homme à côté de moi figure parmi ceux qui ont détruit notre maison. Peu après le génocide, je ne supportais pas de voir ces gens. La vie misérable que j'ai menée provoquait en moi beaucoup de colère.
Une fois retournés en famille, les anciens détenus pour génocide peinent à se réintégrer, car beaucoup de problèmes ont vu le jour durant leur longue absence.
Au sortir de prison, j'ai trouvé mes enfants vivant misérablement. Les filles avaient mis au monde dans le vagabondage.
Une majorité de la population rwandaise vit de l'agriculture. Pour cimenter leurs bonnes relations, les rescapés et les familles des condamnés pour génocide s'organisent en coopérative et travaillent ensemble. Comment cela est-il devenu possible, quelques années seulement après le génocide?
Au fait, nous avons réalisé que la discorde ne nous avait rien apporté. Le rescapé ne pouvait pas se développer tant qu'il vivait dans la peur. Celui qui a passé des années en prison pour un génocide ne pouvait pas être tranquille pour initier un projet de développement. C'est ainsi que nous avons décidé de travailler ensemble pour créer l'amitié entre nos familles.
Ceux qui ont purgé leur peine, comme ceux qui se préparent à sortir de prison, ont besoin d'un accompagnement et d'une préparation psychologique, une tâche à laquelle collaborent les organisations religieuses.
Dans certaines familles, la mère a pris aussi la place du père absent. Et des fois, le père se retrouvera sans place. Parfois, les membres de la famille ne sont pas prêts à lui pardonner, tant son crime est difficile à gérer. À cause de cette absence si longue, il retrouve la femme avec beaucoup de problèmes. Dans certains cas, il la trouve déjà avec des enfants nés d'un autre homme.
Le gouvernement du Rwanda estime qu'entre les fins de peine et les remises de peine, 2200 condamnés pour génocide pourraient être remis en liberté en 2024, alors que plus de 4000 détenus ont écopé de la prison à vie. Jean Thomas Elmanichimé pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Cela fait déjà un an que le permis à points a fait son entrée en Côte d'Ivoire. Le système de pointage par vidéo-verbalisation a permis de réduire considérablement les accidents de la route, selon les autorités ivoiriennes. En effet, le nombre de personnes tuées sur les routes a baissé de 20%. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nomenio.
Nous sommes dans la commune de Cocody, sur le tronçon qui mène à la rivière A3. Des agents de sécurité routière font des contrôles d'alcoolémie sur quelques usagers de la route. Ils reconnaissent que le permis à points a contribué à réduire considérablement les accidents de la route. Bassiriki Dembélé, commissaire de police.
Lorsque vous êtes contrôlé en état d'ivresse au volant, c'est-à-dire que quand vous avez dépassé ou que vous avez atteint la norme de 0,8 grammes par litre de sang, ça veut dire que non seulement d'abord, vous êtes en état d'infraction, c'est-à-dire que c'est une faute pénale, on va vous entendre et on va vous transférer devant, on va vous déférer devant le procureur de la République pour que vous soyez jugé. Au-delà de ça, c'est une infraction qui est facile de retirer sur votre permis de conduire. et cela permet de retirer 6 points sur votre permis de conduire. Ça veut dire que lorsque vous vous mettez au volant chaque fois, vous devez vous rassurer que vous n'avez pas bu de l'alcool.
Selon les agents de la sécurité routière, au moins 59% des permis ont fait l'objet de retraits dans le cadre du permis à points. Et pour ce qui est de la ville d'Abidjan, il y a eu une réduction de 25% du nombre de personnes tuées sur la route. Plusieurs usagers reconnaissent en effet que le permis à points a régulé de manière significative la circulation de la route à Abidjan. Fofana Yaya, usager de la route.
C'est vrai qu'au début, on a vu beaucoup d'améliorations. Et puis après, on a senti qu'il y avait un relâchement au niveau des conducteurs en tout cas. Parce que dès le début, je voyais que les gens vraiment respectaient les feux. Et puis, les gens faisaient bien attention à la vitesse. Parce que, par exemple, cette voie, pour ceux qui le savent, il y a un truc d'une caméra qui est juste donc tout le monde allait du point. Mais les gens commencent à de plus en plus empiéter là-dessus. C'est vraiment le constat que je fais, quoi.
Pour la police routière, le permis à points vise avant tout à sensibiliser les conducteurs sur les dangers de la route. Son entrée en vigueur n'avait pas fait l'unanimité auprès des usagers. Aujourd'hui, il est plutôt bien adopté par l'ensemble des usagers de la route. Touré Abdoulkader, directeur de la police spéciale de sécurité routière.
Le permis à points, c'est d'amener tout le monde à être responsable de son permis et de son véhicule. Voilà pourquoi je l'ai cadré dans la partie sensibilisation. On est citoyen, on est responsable. Quand on a un permis, on pense aux autres, on pense à notre conduite, on pense au futur. Quand on a un véhicule, on ne le donne pas à n'importe qui, on le fait parce que tout ça là est arrimé à un permis à conduire, un permis à un retrait de points.
Le permis à points a fait son entrée en Côte d'Ivoire le 1er mars 2023. Un an après sa mise en œuvre, près de 8000 permis de conduire ont perdu entre 2 et 6 points et environ 250 permis de conduire ont eu un solde nul, selon le gouvernement ivoirien. Ange Bijounomeyon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, après 4 ans d'interruption du fait du Covid-19 et de l'insécurité, le FESTIMA, Festival International des Masses de Dédougou, reprend du service. Ouvert le 18 avril, pour une semaine, le festival accueille des participants qui vibrent au rythme des sons et danses destinés aux masques. L'édition de cette année se tient sous le signe de la résilience dans l'une des régions les plus frappées par le terrorisme. Plus de détails avec notre correspondant, Gildas Da.
En pleine démonstration, des masques de feuilles, des masques de fibres. Cela faisait 4 ans que Dédougouville, située à 230 km à l'ouest de Ouaga, n'avait plus connu pareil spectacle. Le Festival International des Masques de Dédougou se tient pour la première fois depuis 2020, et ce, dans un contexte sécuritaire difficile dans la région, avec pour thème masque, culture et résilience. Tout un symbole que nous explique Léon Ski, enseignant-chercheur, secrétaire général de l'Association pour la sauvegarde des masques, Azama, organisatrice du festival.
Le Burkina n'est pas très sécurité, en sécurité dans certaines parties, mais cela ne doit pas empêcher le Burkinabé également de vivre sa culture, de faire en sorte que le Burkina soit la destination culturelle. C'est un pays qui a une diversité, une richesse culturelle incommensurable, dont nous voulons promouvoir davantage et puis faire connaître aux gens également, parce que de l'extérieur, on a l'impression que le Burkina est un pays non accessible. Toute la région donc de la boucle du Moun, les gens se sont mis à l'émission pour exiger plus ou moins l'organisation de ce festival, et c'est l'une des raisons également qui nous a motivés à organiser donc la présente édition.
Organisée dans un format minima, la 16e édition du Festima connaît la participation de 27 localités, toutes du Burkina. Elle fait la part belle à des villages déplacés dont les sociétés du masque ont pu reprendre corps à partir de Dédougou pour participer au festival. En fibre, en tissu ou en feuille, le masque réveille une importance symbolique dans la tradition. C'est ce que nous dit Annie Koulibaly, chef de la société des masques de Maoula.
Selon la tradition, tout cela commence lorsqu'il y a une nouvelle année et à l'approche de la saison des pluies. Le masque a pour rôle d'éradiquer les maladies de nos villages et aussi d'y puis amener la pluie. Quand il n'y a pas la cohésion aussi, le masque contribue à la ramener. Réunir autant de masques ici peut nous faire sortir de cette crise et amener la paix dans notre pays.
Les fonctions du masque sont multiformes, comme nous précise Léon Sky, qui est aussi expert mondial du patrimoine culturel.
Les masques sont là en tant que messagers. Ils vont donc transmettre les messages du monde invisible vers le monde visible et transporter le message donc du monde invisible vers le monde invisible. Et c'est un peu comme au niveau des autres religions où nous avons des prophètes pour pouvoir permettre à celui qui est décédé de rejoindre le monde des ancêtres. Et le masque est celui qui accompagne donc l'âme.
Sur cette place située en plein cœur de Dibougou, les festivaliers ont vécu à nouveau des moments de joie et certains comme Aminata Ouedraogo en redemandent.
J'ai vu le masque, j'ai aimé. En tout cas, j'ai vu deux choses seulement. Donc, ils ont dit que ça va sortir à 14h. Je vais m'asseoir encore à peine à 14h. En tout cas, c'était très bon.
Vous avez déjà vu des masques avant ?
Bon, ça à la télé.
Dans cette partie du pays, les masques en feuille et ceux en fibre n'apparaissent qu'en présence du soleil. La nuit tombée, d'autres masques prennent place. Les masques en tissu, masques nocturnes, encore appelés masques blancs, avec leur côté festif, ils apportent joie et bonheur dans les villages lors des nuits. Dans 2 ans, le festival verra à nouveau la présence des masques des pays de la sous-région, promettent les organisateurs. Gildas Dado, retour de Dédougou, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les campus universitaires sont quotidiennement le théâtre de manifestations pro-palestiniennes. Les étudiants manifestent contre la guerre menée par Israël et le Hamas à Gaza et demandent que l'aide humanitaire soit autorisée à entrer dans le territoire. Bien que certains étudiants et manifestants aient été arrêtés ou suspendus, les manifestations ne faiblissent pas. C'est un reportage de Veronica Balderas Iglesias, le récit avec Yacouba Ouedraogo.
Des étudiants pro-palestiniens manifestent à l'Université de Columbia à New York alors que les administrateurs appellent au démantèlement des campements. Jeudi dernier, plus de 100 étudiants ont été arrêtés dans des universités américaines. Ces manifestations interviennent au moment où les administrateurs des établissements scolaires sont invités à lutter contre l'antisémitisme. Une manifestante qui a refusé de donner son nom parle des revendications des étudiants.
Je suis ici pour demander un cessez-le-feu immédiat afin que nous puissions acheminer l'aide humanitaire à Gaza.
Mary McLeod, professeure d'architecture, s'est exprimée sur les mesures prises pour gérer les manifestations.
Je ne sais pas pourquoi ils ont dû faire venir les flics, mettre des menottes aux étudiants et pourquoi ils ne peuvent pas accepter quelques tentes où les étudiants étaient totalement pacifiques.
Une étudiante de Columbia, s'identifiant comme juive argentine, voit différemment les choses.
C'est très effrayant. Je ne peux pas me concentrer pendant les cours parce qu'ils crient toute la journée. J'ai peur de dire que je suis juive parce qu'il y a des extrémistes. Ils tenaient des photos soutenant le Hamas.
Les manifestations ont continué à s'étendre à d'autres campus américains. Mardi, un camp de tente a été érigé à l'Université de Californie à Berkeley en signe de soutien aux personnes arrêtées lundi dans les universités de Columbia et de Yale. À Washington, D.C., les étudiants de l'American University ont protesté contre les politiques internes qui, selon eux, résultent des manifestations pro-palestiniennes dans tout le pays et restreignent leur liberté d'expression. Rulia Comino est la secrétaire de l'Association des étudiants de l'American University. Elle s'est entretenue avec la VOA via Skype.
Il s'agit d'une nouvelle politique qui interdit les manifestations à l'intérieur des bâtiments, alors que l'American University a une longue tradition de manifestations et qui restreint aussi l'affichage et le type de matériel qui peut être affiché sur le campus, ainsi que les personnes qui peuvent le faire.
Dans une déclaration à la VOA, l'American University a indiqué que les directives ont été prises pour renforcer la sécurité et le sentiment d'appartenance des étudiants et qu'elle continuerait à soutenir les droits et les responsabilités de la liberté d'expression. Le président Joe Biden a déclaré aux journalistes qu'il condamnait les manifestations antisémites et entre autres ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe avec les Palestiniens. Entre-temps, le nombre de morts à Gaza a dépassé les 34 000, selon le ministère de la Santé de Gaza, et rien n'indique que la guerre entre Israël et le Hamas s'achèvera bientôt.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.